Voisine. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins. On se parle du lundi au vendredi, du nord au sud. Aujourd'hui, je vous propose de lever les yeux et de nous dire quelle est la place des arbres dans vos villes. Allez, respirons un grand coup. Il ne vous a pas échappé qu'avec le changement climatique, la croissance démographique, l'accélération des constructions, il fait souvent de plus en plus chaud dans de nombreuses villes. Et si vous regardez sous vos pieds, vous constaterez que le béton au sol et autour de vous emprisonne la chaleur. Les villes africaines, et pas seulement, mais les villes africaines notamment, devraient accueillir 950 millions d'habitants d'ici 2050. Elles seront davantage exposées aux températures extrêmes. Et pour lutter contre ce que l'on appelle désormais les îlots de chaleur, les grandes métropoles lancent des programmes de forêts urbaines comme à Singapour ou des immeubles forêts comme à Milan. Alors est-ce que c'est si simple de planter et de faire vivre des arbres en ville? Peuvent-ils vraiment faire baisser les températures, lutter contre la pollution? Quelles sont les meilleures politiques urbaines en matière d'arbres? Car oui, le sujet est politique parce que ce sont des investissements coûteux. On va en discuter avec nos invités. Bonjour Philippe Niez.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio. Vous vous définissez comme jardinier paysagiste, concepteur. Vous dirigez l'agence que vous avez créée, votre agence paysagère Niez Studio. Vous êtes chargé notamment du projet de réhabilitation de l'ancienne décharge d'Akouedo dans le district d'Abidjan. D'ailleurs, vous repartez là dans quelques jours à Abidjan.
Mercredi.
Ah oui. Qui devrait être transformé en un parc urbain et sportif de plus de 30 hectares. Hein,
32 hectares, ouais. Exactement.
Oui. Alors bien sûr, vous allez nous en parler. Vous travaillez aussi au Burkina Faso sur la ville nouvelle de Yenenga, aux portes de la capitale à Ouagadougou. Du côté des autorités municipales, on donnera aussi la parole à Scarlett Zongo, qui est conseillère technique auprès du maire de Ouagadougou. Une ville réputée, assez verte, mais ce n'est pas si simple. Nous sommes aussi en ligne avec Philippe Ram. Bonjour Philippe Ram.
Bonjour.
Vous êtes architecte, vous avez publié l'histoire naturelle de l'architecture, comment le climat, les épidémies et l'énergie ont façonné la ville et les bâtiments. Vous avez supervisé aussi une exposition sur le même sujet au pavillon de l'Arsenal et on espère qu'elle reprendra très bientôt avec la fin du confinement. On entendra aussi Nicolas Roca, correspondant de RFI en Corée du Sud. Il nous parlera du projet de forêt urbaine à Séoul. Quelle ville n'a pas son projet de forêt urbaine maintenant? Alors, on verra vraiment ce qu'on peut en espérer de ces forêts urbaines. Et quant à vous, les voisins et les voisines, si vous regardez autour de vous, quelle place pour les arbres dans votre ville? Est-ce un bien appréciable au quotidien pour vous ou une perte d'espace, une charge d'entretien? Dites-nous comment vous considérez les arbres dans la ville. Appelez-nous surtout, n'attendez pas la fin de l'émission. Appelez-nous dès maintenant au 33 7 64 45 51 41 et je vais lire quelques messages postés sur nos réseaux sociaux dans quelques instants.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Réseaux sociaux, vous les connaissez. Facebook, bien sûr, vous nous retrouvez aussi sur Instagram, sur Twitter. Chris, c'est à Curpip, à l'île Maurice, nous dit « Moi, j'habite en plein centre-ville, mais ma cour est bien boisée et cela m'aide à mieux combattre les effets de la chaleur sous les tropiques. » Gianni, à Kinshasa, « Chez nous, les herbes et les arbres sont importants car pendant la saison des pluies et le soir, nous profitons de l'air frais. » Qu'il dégage. Bam, c'est en Côte d'Ivoire. Il nous dit à Grand Bassam, il n'y a pas d'espace vert ni de jardin public. La ville s'agrandit, mais rien n'est prévu pour la verdure et c'est bien dommage. J'ai plusieurs fois interpellé le maire de Grand Bassam à ce sujet. Rien n'est fait et c'est vraiment dommage. Écoutez aussi Ndak, une voisine mécontente à Dakar. Dakar où la ville, la maire de la ville, Soam El Ouardini, depuis 2018, ambitionne de reverdir Dakar avec un objectif de plus de 100 000 plans. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas.
Bonjour, 7 milliards de voisins. Ma ville, qui est Dakar, n'a pas été respectueuse des arbres. Là où j'habite, par exemple, je peux dire que c'était que des arbres, de la végétation. Il y avait, par exemple, des lanternes chez nous. En tout cas, on l'appelait Boutoudiane, les yeux du serpent, parce qu'il donnait des fruits tout noirs, mais tellement sucrés, tellement agréables à sucer. On avait aussi des gibiers, c'est assez des fruits sauvages qu'on ne trouvait pas tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit à la place de tout ça? On ne voit que des immeubles, on ne voit que du ciment. Dans les communes à Dakar, nous n'avons pas de parc à visiter, nous n'avons pas d'endroit où nous aérer. Tout est construit et c'est vraiment triste. Heureusement que nous avons une mairesse qui est consciente de cette situation et qui se bat pour reverdir notre capitale Dakar.
Bonjour 7 milliards de voisins, Waïbo Kwante, depuis Lomé. Lorsque vous venez au Togo, surtout les après-midi, à la sortie du service, les élèves après les cours, vous verrez chacun cherche à rester sous un arbre pour souffler du bon air. Lorsque vous allez à l'université de Lomé, qui est d'ailleurs constituée de beaucoup d'arbres, les heures libres, les heures de repos, vous verrez plein d'étudiants qui sont couchés, certains assis sur les reposoirs, juste pour avoir de l'air pur. S'il n'y avait pas ces arbres, comment allons-nous vivre? Et avec le changement climatique, nos chambres, surtout les après-midi, c'est invivable. Même si tu as un ventilateur, tu ne peux même pas rester dans ta propre chambre.
Hello les voisins et les voisines, moi c'est Yvonne de Lubumbashi. Ici chez nous à Lubumbashi, nous participons à la Journée internationale de l'arbre. On vulgarise sur l'importance de l'arbre et du reboisement. Mais le constat est que les habitants ne s'approprient pas chacun l'utilité de cette journée pour ne fût-ce que planter un arbre par an.
7 milliards de voisins et la planète se barre.
Oui, planter un arbre par an par habitant, c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Philippe Niez, comment vous réagissez au message qu'on a entendu? Ces étudiants qui se réfugient sous les arbres, la croissance urbaine qui a détruit les arbres à Dakar?
Bien évidemment, ce sont des constats qui sont malheureux. Alors, concernant Dakar, j'y suis allé plusieurs fois dans le cadre d'une commande un peu spéciale qui est un peu entrecoupé en ce moment. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'à Dakar, il y a des très grands caïcédras dans les grandes avenues du vieux Dakar. Et ces arbres sont extrêmement maltraités. Ces arbres ont à peu près entre 80 et 120 ans à peu près. Et quand j'y avais été, je m'étais dit, mais là, il y a un patrimoine arboré qui est absolument remarquable, qui sont des très très beaux arbres, très grands arbres dans les rues, et qui n'est pas soigné. Donc il y aurait déjà à faire avant d'imaginer ou avant d'avoir la volonté de créer des parcs, déjà de prendre conscience du patrimoine arboré existant et d'intervenir dessus.
Qu'est-ce que vous appelez soigner?
Il faut faire
donner à boire quand il fait trop chaud?
Non, il faut faire un diagnostic de ces essences, savoir dans quel état sanitaire elles sont et éventuellement faire des interventions, supprimer le bois mort et éventuellement porter des soins dessus. Mais prendre conscience qu'on a déjà un patrimoine, que ce patrimoine arboré, on nous l'a légué, on doit le passer et intervenir dessus. Un caïcédra peut vivre 300, 400 ans sans problème.
Oui, à condition qu'on s'en occupe. Les voisins et les voisines, c'est vraiment l'occasion, là, ça y est, levez les yeux, regardez autour de vous s'il y a des arbres, dans quel état sont-ils, qu'est-ce qu'ils vous procurent, appelez-nous au 33 7 64 45 51 41. Philippe Rame, j'ai parlé au début de cette émission d'îlots de chaleur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on observe à l'heure actuelle comme écart de température entre une zone, un quartier urbain avec des arbres et un quartier où il n'y a pas d'arbres du tout?
Alors, ce qu'on appelle un îlot de chaleur urbain, c'est en réalité, il y a deux facteurs qui font que dans les villes, il fait plus chaud qu'à la campagne, qu'en dehors de la ville. En fait, le premier facteur, c'est la noirceur des sols. En fait, si on fait des sols en bitume, noirs, comme ça, sombres, en fait, tous les rayons du soleil sont transformés en chaleur. Tandis que si c'est clair, si c'est des surfaces claires, ça fait rebondir les rayons du soleil et donc ça garde plus frais les choses. Donc, la première chose à faire pour lutter contre les îlots de chaleur, c'est d'éclaircir les surfaces, d'éviter les surfaces sombres. Et puis, la deuxième chose, c'est le manque d'aération. En fait, l'air ne peut pas, parce qu'il y a des cul-de-sac, c'est bloqué, le vent ne peut pas traverser la ville. Et donc, c'est un peu comme les ventilateurs. Hein. Si l'air ne peut pas traverser, en fait, tout d'un coup, ça se met à surchauffer. Et donc, c'est ça, c'est ces deux facteurs principaux qui sont responsables, en fait, du fait qu'il y a des différences de température de plusieurs degrés entre la campagne, si on va en dehors de la ville, et puis à l'intérieur de la ville. Quoi.
Et les arbres, alors, ils ne peuvent pas refroidir les îlots de chaleur ?
Alors les âmes, en fait, ils ont deux rôles. C'est-à-dire que quand on est sous l'arbre, bien sûr qu'il fait frais parce qu'on est à l'ombre de l'arbre. Et là, c'est même l'invention de l'espace public. Hein. Les premiers espaces publics, on est sous l'arbre, que ça soit en France ou en Suisse ou ailleurs. Hein. On se met à l'ombre de l'arbre et puis c'est un peu tout le monde se regroupe sous l'arbre, sous la fraîcheur de l'arbre. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un vrai effet de rafraîchissement donné par l'ombre de l'arbre. Par contre, les feuilles des arbres, en fait, sont assez sombres. Et donc, au niveau au-dessus, si on des arbres, on a plutôt tendance à chauffer la ville qu'autre chose. Donc, en fait, c'est plus compliqué que ce qu'on peut le comprendre. Mmh.
Nos auditeurs, en tout cas, Philippe Niez, vous l'avez entendu, hein, ont souligné l'aspect bénéfique immédiat que procure un arbre, à savoir l'ombre, Philippe Niez. Mais quand on parle également d'évapotranspiration, hein, c'est bien ça. C'est-à-dire quand les arbres qui font remonter par capillarité l'eau de leurs racines vers les branches et les feuilles, est-ce que ça peut procurer de la fraîcheur ou pas ? Philippe Rame nous disait, mais les arbres sont sombres, donc c'est pas évident.
Bien sûr que les arbres procurent de la fraîcheur parce qu'ils transpirent. Et en transpirant, il libère un tout petit peu des toutes petites molécules d'eau qui, elles, capturent la chaleur. J'ai deux exemples très simples. Un que j'ai eu à Dakar, justement, lorsque je me promenais dans la ville et que j'ai eu l'opportunité de prendre une ruelle qui descendait au bord de la mer. On est passé sous un acacia du Sénégal, acacia sénégalensis, et la différence de température entre le plein soleil et sous cet acacia était de 3-4 degrés, très extrêmement sensible. Et c'était d'ailleurs très impressionnant. C'était un arbre qui est un petit arbre avec un feuillage composé de folioles. C'est un arbre qui est évidemment parfaitement adapté à son milieu et qui procure beaucoup de bien-être. Donc c'est un arbre qui devrait être utilisé dans une ville comme Dakar, bien sûr.
Dans les articles, on voit bien dans la documentation quand même que personne n'est vraiment d'accord sur les écarts de température entre une rue plantée d'arbres et une rue sans arbres.
Alors là, je ne sais pas quoi vous répondre sur ce sujet, mais ça me semble tellement évident, pour moi, paysagiste, jardinier, que c'est un facteur
bénéfique. Ça peut aller
bénéfique.
Jusqu'à combien, selon vous ?
Moi, je pense que c'est à plusieurs degrés. Plusieurs degrés, vraiment. Ça a le même impact, si vous voulez, lorsque vous êtes à une terrasse de café et que vous avez les brumisateurs qui capturent la chaleur.
En fait, on peut descendre entre 35 et 30 degrés, par exemple.
Ah oui.
Ce qui est énorme.
Oui, entre 35 degrés, par exemple, si vous vous tenez en plein soleil, et si vous glissez sous cet arbre qui a une frondaison relativement basse, hein. Attention, il a une frondaison basse, c'est pas comme un caïlcédra qui est un très grand arbre. Là, l'acacia du Sénégal est un petit arbre qui procure justement cette fraîcheur rapidement,
parce que
la frondaison est à 3 mètres.
Il n'y a pas besoin d'avoir de très grands arbres.
Il faut les deux.
Philippe Rabe, vous êtes d'accord ou pas sur l'efficacité immédiate de l'arbre pour refroidir les îlots de chaleur et les villes en général ?
En fait, je pense qu'il faut vraiment bien différencier la question de l'ombre et la question de l'évapotranspiration dont vous parlez. L'évapotranspiration, elle est bien plus efficace avec une fontaine. Par exemple, en Espagne ou au Maroc, il y a toutes ces fontaines qui sont là et qui rafraîchissent parce qu'on met dans l'air énormément de bulles d'eau comme ça qui
s'évaporent. Ça fait plus d'humidité qu'un arbre.
Donc c'est beaucoup plus efficace, une fontaine avec un jet d'eau comme ça, c'est beaucoup plus efficace qu'un arbre qui, lui, transpire très lentement. Donc il faut vraiment faire attention à ça parce que c'est très différent. C'est surtout l'ombre qui rafraîchit et moins l'évapotranspiration. Bien sûr qu'elle est là, mais c'est moins important. Il y a eu des expériences qui ont été faites où on faisait de l'ombre avec des tissus clairs ou avec des arbres et en fait la différence de température était totalement égale.
Oui, mais Philippe, on travaille avec du vivant. Le matériau qui est vivant transpire, procure une ombre. Cette ombre peut être plus ou moins altérée en fonction de la densité des feuillages. Donc, à partir du moment où on est avec du vivant, il y a des choses qui varient. Et il y a des paramètres aussi qui rentrent en ligne de compte.
J'ai lu quelque part, un arbre égale 5 climatiseurs. C'est vrai ou pas, Philippe Niez ? Je vous pose la question à vous, le paysagiste.
Moi, je préfère pas parler comme ça. Ce que je peux vous dire, c'est qu'un frêne peut, par exemple, transpirer 750 litres d'eau par jour. Un baobab qui fait à peu près 200 mètres cubes peut emmagasiner, lui, 140 mètres cubes d'eau. Les plantes sont vraiment des climatiseurs. En effet, bien que ce soit un terme que je trouve un petit peu un petit peu léger sur cette terminologie. Les plantes sont, ce sont elles qui ont créé l'atmosphère dans laquelle nous sommes. C'est, nous héritons d'un travail de qui s'est effectué dans le temps depuis des millions et des millions et des millions d'années. Et nous sommes en train de le gâcher puisque les forêts primaires aujourd'hui représentent que 7% de la surface.
Alors revenons
de nos
aux
terres,
arbres dans la ville. Est-ce que les arbres peuvent nous aider à lutter contre la pollution? Je pense au CE2, au CO2, aux particules fines.
Les arbres adultes capturent le CO2. Ça, c'est prouvé.
Alors, Philippe Rame, sur le CO2.
Oui, alors en fait, là, il y a deux choses très différentes. D'une part, il faut pas confondre, parce qu'on emploie le même terme pollution, que ce soit pour le CO2 ou pour les particules fines, PM2.5, PM10, qui sont des... En fait, le CO2 n'est pas toxique pour nous. Hein. C'est ça provoque le réchauffement climatique, mais nous, on peut respirer du CO2, ça n'a aucune incidence sur notre santé. Alors, pour ce qui est du CO2, en fait, il faut toujours avoir en tête qu'il faut 270 arbres pour absorber le CO2 que chacun de nous, on dégage par jour. Donc, il faut beaucoup d'arbres. Hein. Ça veut dire que si on plante 10 arbres dans un jardin, il ne va pas couvrir notre consommation de CO2. Donc, ça, c'est toujours un rapport dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est pour ça que les grandes forêts sont importantes. Hein. Les forêts amazoniennes ou tous les planctons dans la mer, c'est des immenses quantités pour absorber le CO2. Ensuite, au niveau des particules fines, les PM2.5, hein, ces particules qui sont dégagées par les voitures hein, par les combustion, comme ça, qui sont cancérigènes, qui sont dangereuses, et bien là, en fait, il y a des certaines espèces d'arbres qui arrivent à les attraper avec des feuilles duveteuses ou alors des résineux, mais c'est très faible en réalité. Il y a des études qui ont été faites il y a un an en Chine, hein, qui ont essayé vraiment de voir profondément ce qu'il en était de cette question de l'absorption des pollutions, et on voit qu'on n'est pas très efficace par rapport à ça. Donc, c'est mieux de lutter contre les dégagements des polluants plutôt que de lutter après coup. Hein. C'est pour ça que c'est toujours mieux d'essayer de moins dégager de CO2, de moins dégager de particules fines plutôt que de lutter après coup, quoi, parce que là, c'est plus compliqué. Quoi.
On va donner la parole à une conseillère à la mairie de Ouagadougou au Burkina Faso, parce que on l'a compris, vous nous avez donné déjà quelques informations sur la complexité des arbres dans la ville, mais après, il faut que les élus locaux, que les mairies prennent des décisions, établissent des programmes de végétalisation dans leur ville. Nous sommes en ligne avec Scarlett Zongo, en direct de Ouagadougou. Bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Très bien, merci d'être en ligne avec nous. Vous conseillez la mairie de Ouagadougou sur les questions de développement durable et d'environnement, hein, auprès du maire Arban Bewindé. Votre ville a longtemps été un modèle avec une place de choix pour les arbres, mais c'est vrai que depuis plusieurs années, la ceinture verte s'est dégradée. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui du côté des politiques publiques à Ouaga?
Merci déjà pour l'invitation. En fait, la ceinture verte de Ouaga, c'est 1065 hectares, une bande de 1065 hectares. Qui a été planifié depuis les années 70, en fait, pour servir de rempart contre l'arbre-temps et de poumon vert pour la ville. Malheureusement, les différentes campagnes de reboisement n'ont pas donné l'effet escompté. Et aujourd'hui, avec la pression foncière, il y a des bouts de cette ceinture verte qui ont disparu, en fait.
C'est-à-dire qu'il y a des habitants qui s'installent là pour se loger, tout simplement.
Exactement. Ouais. Et donc, depuis 2018, on a pris le problème à bras le corps. On a développé un protocole, en fait, pour reverdir la ceinture. Et ce protocole fait appel à l'aménagement participatif à travers les fonds RSE des entreprises citoyennes de la ville qui s'engagent à planter, à reboiser 1 hectare de forêt par an. Et depuis 2018, on a une dizaine d'hectares de reboisés. Et je peux dire qu'on peut planter toute l'année maintenant sur la ceinture verte parce qu'on a fait des forages et puis on fait appel à des associations de femmes qui font de la maraîchiculture entre les plants. Donc elles entretiennent en même temps ces plants-là.
Oui.
Donc,
L'idée, c'est de montrer aussi à la population que les arbres peuvent être utiles parce qu'effectivement, si ça crée un peu de fraîcheur, c'est plus utile pour le maraîchage ou pas?
Le maraîchage, c'est plus pour l'entretien des plantes, parce qu'on a pêché dans l'entretien, dans les campagnes de reboisement passées. Et donc, on voulait vraiment régler ce problème-là à travers une présence continue de personnes sur la ceinture verte. Donc, chaque fois que les arbres grandissent, elles sont obligées de bouger parce qu'elles aussi ont besoin de conseils pour leur plan. Donc, on avance au fur et à mesure que...
Quand vous dites qu'on a pêché dans l'entretien des arbres, quel est le taux de survie des petits arbres qu'on plante ? On les plante assez petits, hein, bien sûr, pour qu'ils reprennent plus facilement, mais il y en a beaucoup qui meurent.
Oui, en fait, les petits arbres ne survivent. Oui, moi je dirais 80% d'échecs. Hein, parce que les petits arbres, en fait, oui. Parce qu'on est dans un climat désertique, la pluie c'est 3 mois maximum. Et après, s'il n'y a personne pour arroser, ben, ça meurt en fait. Donc justement, dans le protocole qu'on a développé, on les plante déjà à une certaine... Ils sont assez grands, assez solides. Et donc quand on les plante, ils reprennent vite, assez vite.
Philippe Niez.
Et là, on a un taux de succès, sur la ceinture verte, on a un taux de succès de 90% avec le nouveau protocole.
D'accord. Donc ça va un peu contre l'idée reçue, hein, pour les profanes que nous sommes, qu'il vaut mieux planter plus petit, que les arbres reprennent mieux, qu'ils ont moins de grands besoins en eau. Philippe Niez, est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus.
Alors, je suis ravi de vous entendre, madame. Donc, j'ai eu l'opportunité de travailler, d'aller à Ouagadougou en septembre 2018. Mon voyage était court, donc il fallait vraiment que les choses soient très, 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 très concises. J'ai découvert le Centre national des semences forestières chez vous, que je ne connaissais pas, qui est un centre extraordinaire. Il faut que vous en parliez parce que c'est un centre modèle qui a été initié par Thomas Sankara et dont le but est de collecter sur à peu près 1000 sites au Burkina Faso des semences forestières, alors qui sont évidemment collectées dans les villages et qui permettent ensuite au centre de faire une sélection. Et je pense que grâce à ce centre, la ceinture verte va pouvoir en effet être une chose qui va pouvoir se réaliser grâce à ce centre et aux techniques de plantation, la technique du ZAI, je pense que vous la connaissez, qui consiste à faire une cuvette dans laquelle on plante l'arbre.
Pour conserver l'eau de pluie.
Exactement. C'est une technique ancestrale, hein, cette technique du ZAI, mais elle est mise en... On l'utilise, on la réutilise maintenant, notamment, je pense que pour la ceinture verte, je n'y suis pas retourné récemment, mais ça me semble être une excellente technique pour retrouver justement un taux de réussite au niveau des plantations de jeunes sujets important.
Et est-ce que justement ce centre de semences forestières, Scarlett Zongo, ça permet aussi d'avoir les bonnes essences au bon moment, au bon endroit ?
Oui, en fait, on est en partenariat puisqu'on a une direction en charge des aménagements paysagers qui travaille avec ce centre-là pour justement sélectionner les bonnes espèces. Et aussi, j'aimerais ajouter en plus de ce que vous avez dit par rapport à la technique du ZAI, que dans le protocole qu'on a développé, on met aussi l'accent sur la bioprotection et les hydro-rétenteurs. Comme on a un problème d'eau, on règle le problème à la source, en fait, lorsqu'on plante. Donc, c'est ça, moi, je pense, qui a augmenté aussi le taux de réussite des plantations.
Mais tout ça, il faut de la main-d'œuvre pour entretenir le ZAI, c'est-à-dire les cuvettes, hein, parce que dès qu'il y a des pluies, ça ravine, ça détruit les cuvettes. Il faut entretenir, c'est pareil, les systèmes de rétention d'eau. Comment on fait, avec quelle politique publique on arrive à impliquer les habitants, on arrive à dégager des budgets pour ça?
Justement, c'est comme je vous disais, on a des partenariats avec des associations de femmes qui font la maraîchiculture. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant où elles ont de l'espace pour faire de la maraîchiculture, de l'eau grâce au forage qu'on a implanté sur la ceinture, et en contrepartie elles entretiennent les arbres, elles s'assurent que bon, il n'y ait pas d'animaux en divagation qui viennent détruire un peu ce qui a été fait. Donc nous, en fait, ça répond aux besoins du développement durable, en fait. Il y a l'économie, parce que, bon, je veux dire, elles arrivent à survivre grâce à la maraîchiculture. Et en même temps, elles entretiennent l'environnement à travers l'entretien de cette plante-là.
Et merci beaucoup, Scarlett Zongo, d'avoir été en ligne avec nous en direct. Vous êtes conseillère technique auprès du maire de Ouagadougou. Merci pour toutes ces informations. Très belle journée à vous, Scarlett.
Merci.
Les voisins et les voisines, vous restez bien sûr avec nous. Des arbres pour rafraîchir la ville, c'est aussi d'ailleurs l'initiative de Séoul. On va en parler dans quelques instants. Vous continuez de nous appeler. Encore beaucoup de problèmes hein, pour que les arbres parviennent à rafraîchir les villes. Il faut qu'on parle des sols aussi. L'architecte Philippe Rame nous disait il y a quelques instants, il faut des sols clairs pour rafraîchir les villes. Planter des arbres, ça permet aussi de casser le béton. Il faut de l'eau pour entretenir ces arbres. On va en discuter. Et bien sûr, vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41.
Je veux plus écrire les peines que le féminin m'a fait. Dites à Jackie et Michel de venir me chercher. Moi je veux faire comme tout le monde, je veux juste un peu douter. Je crois que la terre est ronde, mais je préfère comploter. On peut pas changer les ombres, on peut juste les éclairer. Jusqu'à ce que le soleil tombe, lassé de nous réchauffer. Et dans nos envies de plage, du VA et du VB, j'en vois quelques-uns qui nagent vers ce qu'on a déjà coulé. Mais si l'époque a des puces, c'est qu'elle a pas le bon collier. La beauté, tu sais, ça s'use, c'est comme ton premier baiser. Le monde a changé, il s'est déplacé. Quelques vertèbres, oh, est-elle l'ostéo caché dans son dos, attendant la fièvre. L'enfer, c'est pas les autres, c'est ceux qui te font rêver et qui vendent leurs culottes pour un peu de télé. Et toute ma grande famille a le cœur tout chamboulé. Tant qu'il y a quelques partages et du vide à écouler, ils iront sur la banquise passer quelques mois d'été, photographier quelques plages pour un peu de monnaie. Le monde a changé, il s'est déplacé. Quelques vertèbres, oh, est-elle l'ostéo caché dans son dos, attendant la fièvre.
Julien Doré, La Fièvre, vous écoutez 7 milliards de voisins. Nous sommes en direct sur RFI du lundi au vendredi et on se parle chaque jour du nord au sud. Aujourd'hui, on parle des arbres, ce qui vous abrite peut-être en cette journée très ensoleillée, où que vous soyez dans le monde. Les arbres peuvent-ils refroidir les villes? Si vous habitez en ville, regardez autour de vous, appelez-nous, dites-nous quelle est votre relation aux arbres dans votre quartier au 33 7 64 45, 51, 41. On en discute avec Philippe Niez, qui est paysagiste, qui travaille notamment sur la décharge d'Aquedo, qui va être transformée en parc de 32 hectares dans les années à venir. Et on va en parler avec vous, Philippe Niez. Là, on a parlé du Burkina Faso il y a quelques instants. Philippe Rame, lui, est architecte. Et nous donnons la parole à notre correspondant maintenant à Séoul. Des arbres pour rafraîchir la ville, c'est aussi l'initiative de Séoul en Corée du Sud, mais à la différence de Singapour, qui est la référence dans le domaine, la capitale sud-coréenne ne fait pas partie des villes les plus vertes au monde. Gorgée de voitures, d'immeubles, Séoul prévoit de planter une forêt urbaine d'ici 2022 avec un placement stratégique des arbres. Bonjour Nicolas Roca.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Et vous êtes notre correspondant à Séoul. Alors pourquoi est-ce que Séoul cherche à se végétaliser ?
Alors évidemment, vous l'avez déjà mentionné hein, avec vos invités, pour se rafraîchir, même si Séoul ne fait pas partie des villes les plus chaudes au monde, surtout en ce moment, l'été les températures peuvent grimper. Et puis Séoul, c'est un peu une exception dans une Corée du Sud qui est tout de même assez végétalisée. Il y a assez peu d'espaces verts par habitant dans la capitale, alors que dans d'autres villes, beaucoup plus. C'est la région la plus densément peuplée, celle autour de la capitale. Il y a la moitié de la population du pays, alors qu'en fait, en Corée du Sud, 60% à peu près du pays recouvert de forêts, c'est le double de la France. Donc l'heure ici est plutôt à la mise au vert et pour lutter contre la pollution aussi, évidemment.
Oui. Est-ce que Séoul tente de se renouveler écologiquement, de se verdir, et par quels moyens du coup? Quel va être le projet de forêt urbaine? C'est très politique.
Alors, il y a beaucoup d'effets de communication du gouvernement qui n'arrête pas de parler de Green New Deal. Hein. La présidence et la ville sont du bord du Parti démocrate ici, donc on essaie de mettre en avant souvent voilà, la croissance verte fondée sur des innovations technologiques. Mais finalement, dans ce projet concernant vraiment Séoul, il y en a assez peu. Il y a quelques petites choses comme voilà la mise en place de jardins dans le métro, mais on n'est pas dans les ensembles hyper modernes de Singapour. Là, par
exemple, quand vous parlez de jardins dans le métro, je vous arrête, Nicolas Roca, c'est-à-dire du végétal qui pousse sous la terre, sans lumière.
Du végétal qui pousse des légumes en fait, qui poussent dans la terre et qui peuvent être vendus hors situation de coronavirus, qui peuvent être ensuite vendus aux citoyens dans le métro.
D'accord, c'est ça, mais ça pousse bien en pleine lumière, hein, pas avec des lampes.
Ça pousse avec des lampes aussi.
Aussi avec des lampes, d'accord. Bon, oui. Allez-y, pardon, je vous ai interrompu, Nicolas.
Non, pas de souci. Mais donc oui, le projet de forêt urbaine dont on parlait, il est plus classique. C'est des arbres de pleine terre qui vont être plantés principalement, ou notamment plutôt sur le bord du Han, hein, qui est le fleuve principal de la capitale. Avant déjà ce projet de forêt urbaine, il y avait une campagne qui avait pour objectif de planter 30 millions d'arbres d'ici 2022. Mais pour le projet dont on parle, il a commencé en réalité, il a été lancé en octobre et il doit être fini d'ici la fin 2021. Il y a un budget total de 15 millions de dollars. Mais on en est au balbutiement parce que les arbres ont commencé à être plantés début novembre. Mais ce qui est intéressant dans le projet, c'est que l'objectif est vraiment de s'adapter à la géographie de la ville, de créer des espèces de couloirs végétaux. Séoul, c'est très vallonné, hein. C'est entouré de nombreuses collines, de quatre montagnes, plus si on prend toute l'aire urbaine. Et il y en a deux qui vont être au cœur de ce projet de rafraîchissement du centre-ville, Gwanaksan et Bukhansan. Et l'objectif, c'est d'utiliser l'air qui est à la fois frais et qui est propre, qui est généré par les deux montagnes durant la nuit, et de réussir avec des arbres à le diriger à travers la ville. Donc voilà, il y aura des arbres sur le bord du Han, le grand fleuve que j'ai mentionné, mais aussi le long des axes routiers principaux, par exemple.
Ouais. Et quel type d'arbres vont être plantés ?
Alors, dans le projet, il y a trois corridors urbains, entre guillemets, de différents types qui vont être installés. Il y aura donc ceux qui vont être générateurs de vent, ce sera des érables ou bien des pins. Ensuite, il y aura des arbres purificateurs d'air qui vont assurer la connexion avec les forêts qui entourent la ville. Donc là, ça sera plutôt des cerisiers, des chênes. Et enfin, le dernier aspect, c'est de développer des parcs et des jardins sur le toit des immeubles. Alors, c'est celui qui reste le plus flou pour l'instant et surtout dont on n'a pas l'air de bien mesurer l'impact réel. Singapour qui a construit, voilà, encore une fois, Singapour qui a construit énormément d'installations similaires semble être regardé un peu comme un laboratoire sur le sujet. C'est des projets qui sont assez populaires pour l'instant en Corée du Sud, où la conscience écologique est en train de progresser, même si ça reste assez neuf dans ce pays.
Oui, à la faveur d'Internet, bien sûr. Merci beaucoup à vous, Nicolas Roca, d'avoir été en ligne avec nous. J'aimerais avoir vos réactions. Philippe Ram, vous connaissez plusieurs sites en Asie. On a l'impression qu'aujourd'hui, l'Asie fait figure de modèle quant au verdissement des villes et des forêts urbaines.
Oui, enfin nous on vient de terminer la réalisation d'un grand parc pour la ville de Taichung à Taïwan, un climat tropical, un parc de 70 hectares. Et effectivement, ce qui est intéressant, et là j'entendais votre correspondant à Séoul, ce qui est intéressant et ce qui est important aussi, c'est la question des vents. Effectivement, c'est ce qu'on appelle les brises marines, hein, quand il y a des différences de température entre un lieu et un autre. Ça fait que ça surchauffe à un endroit et c'est plus froid à un autre et ça crée des vents en fait. Et ça, ces vents, donc ils sont très importants justement pour rafraîchir les villes. Donc l'idée de créer des couloirs à vent qui peuvent être donnés par des différences de température liées, par exemple on plante beaucoup à un endroit, donc ça fait un certain type d'aménagement et un autre, ça c'est très important. Donc je dirais que effectivement ça c'est une des grandes solutions pour effectivement rafraîchir les villes. Et c'est vrai que l'Asie par rapport à ça est à la tête de ces réflexions. Mais toutes les villes aujourd'hui dans le monde sont sur ces problèmes-là parce que le réchauffement climatique font que les villes surchauffent de plus en plus. Il y a ces problèmes de canicule et donc tout le monde est concerné à Milan par exemple ou partout. On est tous concernés par ces températures qui deviennent extrêmement chaudes maintenant durant l'été.
Alors justement, vous parliez de Milan. Juste une question en arrière. Singapour, c'est le modèle absolu ou pas pour vous, Philippe Ram et Philippe Niez? Philippe Ram,
C'est-à-dire que, en fait, on pourrait dire qu'il y a deux axes. Il y a un axe qui est plutôt actif, plutôt, je dirais, technologique. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Il y a un autre axe qui est plutôt, on pourrait dire, un peu basse technologie, un peu basse, enfin, économiquement un peu passif, si on veut. Donc je dirais que il y a ces deux tendances aujourd'hui qui avancent un peu de front. On se méfie un peu plus des questions technologiques parce que ça fait des machines tombent en panne. carbone parce qu'il y avait les problèmes de maintenance. Donc on cherche plus à des solutions passives hein, qui fonctionnent sans électricité, si on veut, parce que effectivement elles sont moins compliquées. Donc je dirais qu'aujourd'hui c'est cette tendance-là qui est en train de prendre le dessus sur le côté très technologique qu'on peut voir à Singapour dont vous parlez, quoi.
Ouais, une ville ultra technologique dans sa façon de se verdir, Philippe Niez. Est-ce que ça peut être un modèle reproductible ou pas? Est-ce que ces villes asiatiques peuvent servir de modèle pour d'autres continents?
Je pense que les pays, en effet, qui se trouvent dans cette partie-là du monde sont des pays qui sont beaucoup, beaucoup plus respectueux que nous de la nature. Par exemple, Singapour, moi j'y suis allé dans le cadre d'une manifestation de jardin éphémère en 2016. J'ai été frappé par cette ville qui est une ville très étonnante avec une jungle qui vient carrément au bord des routes, une jungle très, très dense.
Et des tours et des gratte-ciels.
Des tours qui sont absolument habités de végétaux, je dis bien habités, ça n'a rien à voir avec ce que nous faisons nous ici, qui est vraiment du saupoudrage.
Ça veut dire que là, on a des arbres qui sont plantés dans des bacs et pas dans le sol, pas dans la terre.
On a des plantes, on utilise énormément les plantes grimpantes, et notamment le genre philo, par exemple, philodendron, qui est une plante, qui est une liane, qui se trouve dans les forêts primaires et qui peut monter jusqu'à 40 mètres de haut. Hein. Donc c'est vraiment une bonne utilisation du végétal et surtout une bonne connaissance du végétal. Je dirais même aussi autre chose, c'est que les gouvernants de Singapour savent que l'eau va être un véritable enjeu dans le prochain siècle là, qui arrive, donc notre siècle à nous. Et ils ont initié d'énormes réservoirs d'eau qui sont dissimulés dans la forêt et qui permettraient éventuellement à Singapour de faire face à des problèmes d'eau. C'est une ville très étonnante. Moi, j'ai été complètement bluffé par cette ville et par son architecture. Là, une liberté d'expression, une façon de bien composer entre une nature très dense, vive, généreuse, pionnière et bien évidemment la problématique d'une ville qui doit se développer.
Alors, bien sûr, on va revenir sur les immeubles végétalisés parce que ça, c'est encore un autre sujet, mais ça fait partie du verdissement de la ville. On retourne au standard. Hein, on le voit bien que d'une ville à l'autre, il faut s'adapter, il faut prendre en compte la géographie de la ville, les moyens des municipalités, la façon dont vivent les gens. On retourne au standard, on donne la parole au 33 7 64 45 51 41. Bouna nous appelle de Nouakchott. Bonjour Bouna.
Bonjour.
Soyez le bienvenu chez 7 milliards de voisins. Vous êtes à Nouakchott, c'est une ville où il n'y a pas beaucoup de verdure.
Non. Tout à l'heure, j'ai suivi lorsque quelqu'un a dit qu'on en est au balbutiement. Je pense que question balbutiement, c'est plutôt ici. Parce que j'ai dans mon école un petit jardin et j'essaie de planter les plantes dans l'esprit des enfants d'abord, de leur dire que c'est essentiel. Et j'ai déjà des petits adeptes qui s'intéressent beaucoup au jardin et nous plantons. Et j'ai même commencé à planter dans la rue des arbres.
Oui, alors après, il faut que vous formiez chez vos écoliers de futurs élus municipaux. En tout cas, il y a beaucoup de voisins qui nous envoyaient des messages qui se plaignent aussi du manque d'arbres dans la capitale mauritanienne. Vous souhaitiez insister sur le problème de la palmeraie à Nouakchott.
Oui, il y a une palmeraie qui s'appelle la palmeraie de Nouakchott, qui est en fait le poumon de Nouakchott.
Qui est quand même en train de mourir, hein.
Oui, elle est en train de mourir parce qu'il y a les personnes qui ont de l'argent qui commencent à essayer d'investir pour que ce soit du béton. Et nous, moi, avec des gens comme moi, nous essayons de lutter contre ça, de préserver cette palmeraie qui a plusieurs hectares et qui dégage beaucoup d'oxygène pour la ville de Nouakchott. Il y a aussi un espace dédié à la nature qui s'appelle le village de la biodiversité, qui est conduit par une certaine Mémona Salik, qui a beaucoup lutté et on vient de lui enlever malheureusement le terrain. Et ça, nous sommes en train de reculer en fait.
Ouais, du fait de la croissance urbaine, il faut bien le dire, c'est pas seulement la spéculation immobilière, c'est le besoin de logement des habitants.
Mais Nouakchott, nous sommes dans un pays qui est très vaste. C'est un grand pays et très peu peuplé. Donc, on peut aussi vivre en essayant de préserver des lieux de vie.
Oui. Vous posez une vraie question, Bouna. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir appelé, Philippe Niez. La particularité, les spécificités des villes africaines, c'est qu'elles grandissent, qu'elles augmentent inexorablement leur nombre d'habitants et que les villes s'étalent. Comment on fait pour faire cohabiter à la fois les nouveaux arrivants, les nouveaux habitants qui naissent chaque jour, le besoin de logement et absolument le besoin de verdir les villes?
Alors, c'est le bon problème qui est posé. En effet, si je prends l'exemple d'Abidjan, l'Abidjan double sa population tous les 7 ans, ce qui est évidemment colossal. Donc, la ville s'étend, elle s'implante sur des territoires où il y avait du maraîchage, par exemple, et sur la lagune aussi, sur les lagunes qui sont évidemment qui délimitent le périmètre d'Abidjan. Et évidemment, c'est un véritable problème que vous évoquez là. Alors, moi, je ne suis pas architecte, mais j'aimerais beaucoup travailler sur une réorganisation, sur un schéma urbain à long terme pour la ville d'Abidjan, sachant qu'à Abidjan, j'ai l'impression qu'il y a quand même une volonté d'évoquer ce problème et de le traiter. On pourrait très bien créer des petits centres, des petits regroupements d'habitations. Alors, je dis pas des tours, mais des petites habitations où on regroupe des familles, 30, 50, 60 familles, de manière à dégager, à permettre d'avoir de grands espaces de dégagement entre ces petites unités. Et là, entre ces unités, bien évidemment, replanter des framérets, des fraquets, des badamiers, toutes ces essences qui pourraient justement permettre de lutter contre le réchauffement dans ces zones-là.
C'est-à-dire insérer des arbres au milieu du maillage très dense des habitations. Le projet sur lequel vous êtes en train de travailler en ce moment, c'est-à-dire le reboisement de la décharge d'Aquedo, qui a été tristement célèbre pour être un gigantesque dépôt d'ordures. Où est-ce que ça en est aujourd'hui ?
Oui, c'est un projet pilote, c'est un projet phare de l'agence.
Donc c'est à une dizaine de kilomètres d'Abidjan, mais maintenant ça fait partie du district
d'Abidjan.
C'est dans
Abidjan
même.
Si vous voulez, à l'époque, en 1960, lorsque cette décharge s'est ouverte, elle était bien évidemment excentrée d'Abidjan. Avec la manière avec laquelle la ville s'est développée, maintenant elle est dans Abidjan même. Ce qui s'est passé, c'est que il y a une volonté ferme de l'État ivoirien de la fermer pour transformer ce site et pour le dépolluer. Alors la dépollution, dans un premier temps, est organisée et elle est gérée par le groupe Veolia. Et toute la réflexion sur le parc est traitée par nous.
Ouais. Alors, il y a une pépinière qui a été créée sur place avec des milliers d'arbres cultivés.
Ça, c'est très important. J'allais y venir.
Il nous reste vraiment une minute. En quelques mots, il faut combien de temps pour arriver à reboiser un quartier, pour en faire un parc ? Il faut combien de temps pour qu'un arbre apporte ses effets bénéfiques ? Combien d'années ?
Pour qu'un arbre apporte ses effets bénéfiques, lorsqu'on se trouve dans les climats tropicaux, à mon avis, entre 5 et 10 ans, on a déjà un impact sur l'environnement.
Ouais. Alors Philippe Rame, si on prend les villes européennes, il y a un problème de sol, notamment à Paris, où d'ailleurs on coupe des arbres tout en ambitionnant de créer des forêts urbaines. C'est le projet de Dan Hidalgo. Il faut combien de mètres cubes pour faire pousser un arbre et combien d'années pour qu'il apporte ses effets bénéfiques, si on prend la capitale française ?
Alors, je dirais
en quelques mots, hein.
En réalité, il faut que les arbres effectivement poussent en pleine terre, parce que si on doit les faire, si on doit les mettre sur des balcons ou sur des parkings souterrains, des choses comme ça, on doit renforcer les structures, parce qu'il faut au moins 1,50 m minimum de terre pour faire pousser un arbre. Donc, ça veut dire qu'on vient renforcer des structures et donc on vient dépenser du CO2 pour supporter l'arbre qui serait censé reprendre le CO2. Donc, c'est un peu des choses un peu tautologiques, comme on dit. Mais je dirais que effectivement, dans les développements urbains, c'est toujours important aujourd'hui d'avoir cette conscience d'avoir des zones en fait déminéralisées, hein, des zones où la pluie peut être en rétention dans des grands bassins, et puis des zones de vent, d'arbres comme ça, qui permettent d'avoir des développements de quartiers urbains tout en préservant en fait des parties végétales entre ces développements urbains. Donc c'est pour ça que au tout début de la conversation, vous parliez du lien entre les paysagistes et les architectes, et aujourd'hui les urbanistes, en fait, on intègre la question paysagère directement dans l'urbanisme, c'est-à-dire qu'il faut traiter les questions de l'eau, de la chaleur, et toutes ces questions naturelles font partie aujourd'hui du domaine de l'urbanisme.
Alors, dernière question, on a évoqué énormément de projets, notamment de forêts urbaines, il y a aussi les délires à Milan d'immeubles complètement végétalisés, mais il y a aussi un projet de forêt urbaine qui est de planter 3 millions d'arbres d'ici 2030. Hein. On parle bien d'une ville énorme comme Milan. Enfin, énorme, ce n'est pas les villes chinoises, bien évidemment. Il y a des forêts urbaines dans des villes chinoises. À quoi vont ressembler les villes dans 20 ans avec tous ces arbres plantés, s'ils ne sont pas morts d'ici là? Vraiment, en quelques mots, Philippe Rame, selon vous?
Moi, je pense que, en fait, on va devenir un peu plus habile sur la question de la végétalisation des villes. Mais il faut aussi penser, parce qu'il faut aussi penser aux villes méditerranéennes. Hein. Par exemple, les villes marocaines, elles sont blanches, elles ont des ruelles étroites. Donc ça, c'est pour lutter contre la chaleur. Ces questions-là, elles sont aussi importantes. Et donc, on a un peu trop tendance à prendre l'arbre comme un espèce de symbole hein, du rafraîchissement des villes. Mais si on regarde les villes, marocaines, hein, elles sont pas forcément plein d'arbres. Hein. Elles ont d'autres stratégies pour lutter contre la chaleur. Donc, il faut aussi s'inspirer de ça.
On l'a compris, vous êtes aussi un peu dubitatif sur les arbres partout. Philippe Niez, vous, en deux mots, à quoi ressembleront les villes demain dans 20 ans, quand on aura planté tous ces arbres, s'ils ont survécu?
Bah écoutez, moi j'ai bon espoir qu'on y arrive et surtout qu'il y a un bon rapport entre les maîtres d'œuvre architectes et les paysagistes.
Oui, mais visuellement, à quoi ça ressemblera?
Je pense que ça va ressembler à des espaces qui vont être avec des jardins verticaux, avec peut-être une cinquième façade dans les villes qui sera enfin traitée, les espaces toitures qui seront traités.
Il faudra du monde pour entretenir tout ça, en tout cas.
Et
ça
surtout,
pourra créer des emplois.
Une revalorisation de notre métier. Notre métier de jardinier est très dévalorisé.
Merci à tous. Merci Philippe Niez, paysagiste, jardinier, comme vous dites, pour l'agence Niez Studio. Vous repartez mercredi à Abidjan pour travailler sur le projet du parc d'Akouedo. Merci à vous Philippe Rame, architecte. Vous avez publié Histoire naturelle de l'architecture, comment le climat, les épidémies et l'énergie ont façonné la ville et les bâtiments. Dans quelques instants, SOS Mother Nature. Et puis ensuite, bien évidemment, ce sera le journal sur RFI. People killing, people dying, people lying, people blind. People don't see the sign, watching money all the time. Get the pennies, get the dimes, get the dollars is the mind. State of the human race, people on a paper chase. The environment is fragile, and we've been on the gradual. Declining in a lifetime, we'll lose the battle. Get burned by volcanoes, get blown by tornadoes. Cause Mother Nature signals, is trying to warn NATO. We got a new terror threat, it's called the weather. More deadlier than chemical and nuclear together. It's hotter in the winter, even hotter in the summer. Jesus or Buddha, somebody coming. Help us out. Lord, come down and help us out. Send us an angel, help us out. SOS, help us out. Looking all around in the marginal world. Changing. Open up your eyes, you can see things rearranging. The world is dying. And if they say it's gonna be alright, then people are lying. People trapped behind the gates, ignorance is a state of mind, cause they formulate a plan against the penetrators. You see, they stimulate us with fear, manipulate us. Each year they dominate, dividing us like calculators. And we can't add it up, cause calculators do the math for us. And here they come chopping down the rainforest. Fucking up our air for us, they don't really care for us. And we can't complain, because the only one to blame is us. The gas is rising up, but we keep on filling up. CO2 levels got the whole planet heated up. It's blazing in the winter, even hotter in the summer. Muhammad, Jehovah, somebody come and help. Help us out. Lord, come down and help us out. Send us an angel, help us out. SOS, help us out. Looks like we ain't gonna figure it out. Lord, come down and help us out. Send us an angel, help us out. SOS, help us out. Looking all around and I'm watching the world changing. Open up your eyes, you can see things rearranging.
7 milliards de voisins, c'est fini.
Tout à l'heure sur RFI.